Lydiane Guena.
Bonjour. Pour lui, le moment est venu. Robert Bouvier quittera la direction du Théâtre du Passage à Neuchâtel en janvier 2025. Une décision qui l'étonne un peu lui-même. Un chantier va encore marquer le paysage chaudefonnier pendant quelques mois, celui de l'enfouissement de la ligne électrique de Groupe E. La partie enfouie devrait être mise en service en décembre. On continue notre aperçu des enjeux des élections fédérales dans les grands cantons alémaniques. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Argovie, un canton plutôt conservateur où l'UDC et la droite dominent. Le risque d'averse sera persistant cet après-midi, mais une accalmie et même le développement de quelques éclaircies sont annoncés par Météo News. Il fera jusqu'à 17 degrés sur le littoral et 15 degrés à 1000 mètres. Des peines fermes pour les membres de la bande du 47. Les juges du tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz ont livré leur verdict ce matin après 3 jours de procès. Les 7 prévenus, accusés notamment de séquestration et un pour agression, ont écopé de peines allant de 10 mois avec sursis à 2 ans et demi ferme. Ils étaient notamment accusés d'avoir agressé en bande un jeune à la gare de Neuchâtel, de l'avoir ensuite déplacé, séquestré et frappé. On y reviendra plus en détail dans notre édition de 18h. C'est le dernier acte pour Robert Bouvier. Le directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel annonce son départ. Dans un communiqué diffusé ce matin, il explique qu'il s'en ira en janvier 2025. Le comédien et metteur en scène de 62 ans est aux commandes de l'institution depuis son ouverture en novembre 2000. Autant dire que le personnage se confond presque avec l'institution. Dans ces circonstances, décider de partir, ça n'a pas été facile pour Robert Bouvier.
J'ai toujours pensé que ça serait important de réussir ma passation, mon départ. Pendant la crise du Covid, c'est vrai que parfois j'étais découragé, mais heureusement on a pu dépasser cette crise. Maintenant je vais bien, la situation est saine, l'équipe est soudée, on a le plus fort taux de fréquentation des théâtres du canton, le public est fidèle, le budget se porte bien et je me dis que c'est vraiment le moment de veiller effectivement à passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Je me force un tout petit peu, je m'étonne moi-même, mais je sens instinctivement que c'est bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir ici, donc je serai encore là pendant plus d'une année et je continue de travailler dans le plaisir. Donc je me dis que c'est le bon moment pour que quelqu'un d'autre réinvente ce théâtre.
Il ne s'agit pas d'une retraite artistique. Robert Bouvier a des projets avec sa troupe, la Compagnie du Passage, avec une nouvelle création prévue pour février 2025. Et le syndicat intercommunal du théâtre régional de Neuchâtel devrait nommer un successeur au printemps 2024. Deux grandes lardasses de terre coupent la Chaux-de-Fonds en deux, du nord au sud, depuis des mois. Les travaux d'enfouissement de la ligne électrique du groupe E sont bientôt terminés. La partie enfouie, qui va des endroits au foulet, devrait être mise en service en décembre. Le projet, initié par la ville de la Chaux-de-Fonds pour favoriser son développement urbanistique, a coûté 3,5 millions de francs, dont un demi-million à charge de la commune. Dimitri Moser est le responsable du chantier.
C'est quand même un projet qui date de longtemps. Les études ont été faites déjà en 2016 ou même avant. Après, en 2017, il y a la première partie du projet qui a été mise à l'enquête, qui concernait uniquement le nord de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au poste électrique de Chevrolet. Et après, il y a une série de pétitions pour pouvoir enfouir aussi également la partie sud, également dans le but du développement urbain qui est prévu à la Chaux-de-Fonds. Le tracé s'est rallongé en 2018 et puis après, on a pu commencer les travaux en 2022.
Et l'aventure n'a pas été de tout repos. La tempête du 24 juillet a fait 6 blessés légers chez Groupe E, couché 10 pylônes et retardé les travaux de génie civil de quelques jours. Mais l'approvisionnement en électricité n'a pas été perturbé. Johannes Ayo, responsable des lignes à haute tension chez Groupe E.
Non, en principe pas. On a encore une liaison haute tension entre le Loc Technicum et puis Châtelot. Du coup, toute la production de Châtelot, elle va être injectée vers le Loc Technicum.
Donc là, l'électricité passe par une autre voie depuis quelques mois.
Oui, c'est ça, oui. Et puis pendant la tempête, on a eu ces deux lignes cassées. Et puis pendant ce temps-là, on a injecté vers la France. On a encore la possibilité d'injecter vers la France.
Un sujet de Vincent Costet, la ligne enfouie à la Chaux-de-Fonds est sur un axe qui part du Châtelot, passe par Tête de Rang et Chaumont pour aboutir à Corneau. 11 000 des 13 000 km de lignes électriques que possède Groupe E sont souterrains et cette part enfouie augmente chaque année. Les coûts de ces investissements sont reportés sur la facture d'électricité. Les bulletins de vote sous haute surveillance. À quelques jours des élections fédérales, nous nous sommes intéressés au parcours des enveloppes de vote, de leur dépôt dans une boîte aux lettres à leur dépouillement. Les enveloppes sont toujours manipulées en présence d'au moins deux personnes. Et le jour du scrutin, la police est aussi là pour surveiller, tout comme au minimum un représentant de parti politique. La sécurité des enveloppes est donc assurée dès leur dépôt. Sarah Hansberger, chef du service à la population de la ville de La Chaux-de-Fonds, est préposée au contrôle des habitants.
Ces enveloppes sont récoltées, que ce soit dans notre, case postale en bas donc de Espace Cité à La Chaux-de-Fonds, soit elles nous sont directement amenées par la poste, et puis on les traite toujours donc ensuite avec deux personnes qui travaillent ensemble. Elles sont ouvertes, et puis ensuite on regarde si la carte de vote est dûment signée et datée. On la met ensemble avec, ici en l'occurrence, les deux enveloppes, puisqu'il y a deux élections. Il y a peut-être des électeurs qui n'ont qu'une enveloppe parce qu'ils n'ont que le droit de vote cantonal. Et ensuite, on scanne tranquillement la carte de vote. On contrôle encore que la date de naissance soit correctement indiquée. Et on met les enveloppes de vote chaque fois timbrées avant, donc avec le sceau de La Chaux-de-Fonds, dans une urne qui est scellée.
Sarah Hansberger était l'invitée de Sarah Massy dans la matinale. Un entretien à retrouver en vidéo sur rtn.ch. Les citoyens peuvent aller voter jusqu'à dimanche midi dans les bureaux de vote de leur commune de domicile. Et justement, en vue des élections fédérales, on continue notre aperçu des enjeux dans les grands cantons de Suisse alémanique. Après Zurich et Berne, cap aujourd'hui sur l'Argovie, plutôt conservatrice où l'UDC et la droite dominent. L'élection 2023 pourrait faire briller une étoile montante de l'UDC, Benjamin Kitzendaner. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
L'UDC et le PLR avaient fait main basse sur les deux sièges argoviens du Conseil des États en 2019. Il devrait en être de même cette année. Le président du PLR national, Thierry Burkhard, devrait être aisément réélu, ce qui renforcera sa position présidentielle, même si on prédit un résultat en recul pour le PLR suisse. L'autre sénateur argovien devrait être Benjamin Kitzendaner, 41 ans, fils d'Ulrich, qui fut un poids très lourd du Conseil national durant 28 ans, de 1991 à 2019. Benjamin Kitzendaner devrait succéder à Hans-Jörg Knecht, qui tire sa révérence et peut-être se profiler pour de plus hautes fonctions ces prochaines années. On a coutume de dire que l'Argovie est le baromètre politique du pays. Ça avait été partiellement le cas en 2019, car il n'y avait pas eu de vague verte dans ce canton conservateur dominé par l'UDC, le PLR, surtout par l'UDC qui pèse plus de 30% et occupe 6 des 16 sièges argoviens au Conseil national. Poussé par celui qui allait devenir le coprésident du Parti national, Cédric Vermouth, le PS avait un peu progressé il y a 4 ans, mais son troisième siège ne tient qu'à un fil.
Sur le mois de septembre, les exportations horlogères s'affichent en hausse de 3,8% par rapport à l'année dernière. Des chiffres communiqués ce matin par la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Les deux marchés les plus importants, États-Unis et Chine, sont pourtant en recul sur septembre, mais la plupart des marchés importants sont en hausse soutenue depuis le début de l'année. Le peuple suisse ne votera pas sur l'initiative Paysage. Le comité d'initiative a retiré son texte ce matin. Toutefois, il demande une mise en œuvre stricte de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire qui fait office de contre-projet indirect. Face à la crise migratoire, la Suisse refuse d'intensifier les contrôles à sa frontière avec l'Italie. C'est ce qu'a déclaré ce matin la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider en marge de la réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne au Luxembourg. L'Allemagne avait, elle, annoncé lundi des contrôles à sa frontière avec la Suisse en raison de la hausse des migrants et réfugiés. Israël a continué aujourd'hui de pilonner la bande de Gaza, tandis que les convois d'aide humanitaire qui doivent se rendre sur cette langue de terre où vivent 2,4 millions de Palestiniens sont bloqués depuis des jours à la frontière avec l'Égypte. Ils sont au point de passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël. Les États-Unis et l'Égypte ont d'ailleurs annoncé ce matin que la porte de Rafah sera ouverte pour laisser entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les centaines de camions qui attendent ne devraient pas entrer avant demain, car la route doit être réparé après les bombardements israéliens. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui l'Italie pour des atteintes à l'environnement causées par une décharge. Elle lui a plus généralement reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les habitants lors de la crise des déchets de 1994 à 2009 en Campanie, dans le sud de l'Italie. Durant cette certaine période, les autorités ont dû prendre des mesures d'urgence, parmi lesquelles la fermeture temporaire des écoles, des universités et des marchés, ainsi que le transfert des ordures vers des sites de stockage provisoires.
Midi 25 sur RTN.
Sport. Le Cirque Blanc est prêt à reprendre ses droits. La station autrichienne de Sölden accueillera la semaine prochaine et pour la 30e fois le coup d'envoi de la Coupe du Monde de ski alpin. La fédération a annoncé aujourd'hui que les conditions étaient réunies pour que les géants hommes et dames prévus sur le glacier du Rettenbach puissent avoir lieu. La neige est au rendez-vous malgré des températures supérieures à la moyenne lors de ce premier mois d'automne. Adversaire connu pour les trois clubs suisses qualifiés en Ligue des champions de hockey sur glace, le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition a livré son verdict hier soir. Genève Servette se frottera à Munich en Bavière. Bienne défiera les Suédois de Feierstad et Rapperswil sera opposé à l'équipe de Mannheim. Les rencontres allées se tiendront les 14 et 15 novembre. Et une grosse blessure pour Neymar. Le footballeur de 31 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. La star du Brésil a été touchée lors de la défaite de son équipe contre l'Uruguay mardi en match de qualification pour le Mondial 2026. La date de son opération n'a pas encore été fixée. L'information revient à 13h. Bon appétit.